En fait, c'est la 9e session, mais je crois que pour une raison ou pour une autre, j'ai interverti les livres poétiques. On aurait dû terminer d'abord Esdras, Néhémie et Esther, qui sont les livres historiques. Alors, vous savez que le livre du prophète Daniel nous parle de la succession des grands royaumes de l'humanité. Et parmi ces grands royaumes, il explique en fait, l'histoire biblique nous montre qu'il y a eu un moment où l'Assyrie était le grand pouvoir mondial. Il a été remplacé par Babylone, puis ça a été les Perses, en fait les Perses et les Mèdes. On parle de l'empire médo-persique qui a donné lieu, qui a laissé la place à l'empire grec avec Alexandre à son apogée, qui lui-même a été remplacé par l'empire romain. Alors l'histoire biblique, elle peut, lorsqu'on lit les livres historiques, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois et 1 et 2 Chroniques, puis Esdras et Néhémie, Esther étant aussi historique, on peut être très confus par les rois, par les dates. Vous vous souvenez qu'à la fin des livres des Chroniques, du livre des Rois, on avait expliqué que le royaume s'était divisé après Salomon, son fils Réhoboam et Roboam avaient chacun pris une partie du royaume. Il y avait le royaume du nord avec 10 tribus dont la capitale était Samarie, et puis le royaume du sud,
Juda, dont la capitale était Jérusalem. Deux dates sont très importantes pour vous situer de mémoire, et ça c'est des dates que vous pouvez essayer de retenir de les avoir en tête pour bien situer un peu les choses. Le royaume du Nord, la Samarie, est parti en exil en 721 avant Jésus-Christ. Ils ont été emmenés par le roi Sargon en Assyrie. En 586, Juda a été emmené en captivité à Babylone. Ça, c'est en gros, parce qu'on verra qu'en fait, il y a eu plusieurs mouvements d'exil, de capture, de combat, de siège. Mais un personnage dont Daniel parle beaucoup, c'est le roi babylonien Nebuchadnezzar, ou en français, en vieux français, enfin en français traditionnel, on parlait du roi Nabucodonosor. Son nom, ça veut dire que Nebo, c'était un dieu des Babyloniens, que Nebo protège la couronne et les frontières. Ce Nabucodonosor, c'était un grand général qui avait livré une grande bataille qui s'appelle la bataille de Carchemish, en 605 avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, surtout en ces jours de guerre en Irak, c'est que Carchemish, ou Carchemish, c'est une ville qui est située sur l'Euphrate, déjà à l'époque. Là, ce général Nabucodonosor a battu l'Empire assyrien, plutôt il a battu l'Égypte à Carchemish. Il y avait le pharaon égyptien Necho qui a été battu, et ça a fait de Babylone la première puissance mondiale après la victoire aussi qui avait été remportée à Ninive sur l'Empire assyrien. Donc il y avait ce roi qui était dont il est beaucoup question dans le livre du prophète Daniel. C'est lui qui a été vraiment un tournant de l'histoire antique entre l'Assyrie et Babylone. Et ce souverain, il est devenu donc roi de Babylone, empereur de Babylone, et il s'est attaqué à Jérusalem. Il lui a fallu près de 20 ans pour venir à bout de Jérusalem. Il y a eu 4 épisodes. Ça a commencé en 606 avant Jésus-Christ. Là, il est venu battre le roi Jéhoiakim. C'est Jéhoiakim. Il a pris les trésors du temple et des jeunes nobles, dont un certain Daniel, qui était le futur prophète Daniel. Ça, c'est décrit dans 2 Chroniques 36 et dans Daniel 1. Et il avait mis à la place de ce roi Jéhoiakim un autre roi qui s'appelait Jéhoiakin. Donc ça devient très, très subtil comme différence. En 597 avant Jésus-Christ, donc on est en compte à rebours avant l'ère chrétienne, ce roi Nabuchodonosor vient prendre le reste des trésors et le roi Jéhoiakim et aussi tout un tas de jeunes et de personnages importants du royaume et les ramène à Babylone. Pourquoi est-ce qu'il prenait les trésors du temple de Jérusalem ? En fait, lorsque des peuplades à l'époque se livraient bataille, la façon certaine d'avoir vaincu l'ennemi, c'était d'emporter les statues de ses dieux, ses idoles. Mais bien sûr, dans la religion juive, dans la Torah, il n'y avait pas d'idoles, il n'y avait pas de statues des rois. Et donc, il prenait les ustensiles qui servaient au culte comme un trésor de guerre. Il installe à la place de Jéhoiakim, il installe un autre roi qui s'appelait Matania et lui donne un nouveau nom, il l'appelle Sédécias. Et on reconnaît la racine Tzadok, Sédécias, ça veut dire l'éternel et justice. Et son nom précédent, ça voulait dire don de l'éternel. Ézéchiel fait partie de ceux qui sont emmenés en captivité. Le futur prophète Ézéchiel, il part aussi à Babylone. Troisième épisode de cette prise de pouvoir contre Jérusalem, c'est la date de 586 avant Jésus-Christ. Et là, il y a un siège très farouche de 1 an et demi, et ils finissent par brûler Jérusalem. Et là, c'est la date que l'on donne. On dit Jérusalem est tombée sous les Babyloniens en 586. Donc ça, c'est une date à retenir, comme je l'ai déjà dit. Et un peu plus tard, 5 ans plus tard, en 581, les Babyloniens reviennent et emmènent encore 745 captifs supplémentaires. Ça, c'est raconté dans Jérémie 52, 52-30. Et une chose intéressante, on a dit que la Bible, quand on l'a considérée dans son ensemble, on voyait en fait que c'était un message, un système intégré de messages de Dieu. Et que Dieu, pour nous authentifier son message, il montrait qu'il était en dehors du temps. Il nous faisait un clin d'œil en faisant des prophéties pour nous montrer qu'il savait ce qui allait se passer, chose qu'aucun autre homme ou aucune autre religion n'a autant de prophéties vérifiées que la foi biblique. La captivité de Judas à Babylone avait été prédite plus de 100 ans avant par le prophète Ésaïe et par le prophète Michée. À l'époque de ces événements, on va voir surgir donc 3 grands prophètes, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Mais déjà le prophète Ésaïe disait dans Ésaïe 39,6 « Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il ne t'en restera rien, dit l'Éternel. » Le prophète Michée 4,10 disait « Fille de Sion » pour désigner Jérusalem, « Souffre et gémis comme une femme qui accouche. car maintenant tu sortiras de la ville et tu feras ta demeure dans les champs, tu iras jusqu'à Babylone et là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Jérémie, une fois que la captivité a commencé, a prédit qu'elle ne durerait que 70 ans. Ça, c'est dans Jérémie 25, 11. Il parle à ses contemporains en Israël, en Juda, et leur dit « Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, j'interviendrai, c'est l'Éternel qui parle, contre le roi de Babylone et contre cette nation, oracle de l'Éternel, à cause de leur faute, et contre le pays des Chaldéens, c'est-à-dire le pays des Babyloniens, dont je ferai une désolation pour toujours. » Jérémie 25, 11. On a dit que les premières batailles, les premiers sièges de Jérusalem ont commencé vers l'an 606. Et c'est à ce moment-là que la captivité a commencé. À partir de ce moment-là, des gens sont partis en exil, comme le jeune prophète Daniel. Et les 70 ans, le compte à rebours a commencé à partir de cette date de 606 ou 607, pour finir en 538 avant Jésus-Christ. Encore un petit résumé. L'Assyrie va emmener Israël, le royaume du Nord, dont la capitale est Samarie, en captivité de 734 à 721. On a dit de se rappeler de 721. Babylone emmène Juda, dont la capitale est Jérusalem, en captivité de 606 à 586, essentiellement. L'Assyrie, c'était la partie nord de la vallée qui se trouve entre le Tigre et l'Euphrate, ce qu'on appelle la Mésopotamie. Mésopotamie, ça veut dire entre deux fleuves. Potamos, c'est le fleuve. Un hippopotame, c'est un cheval dans le fleuve. Et c'est intéressant de voir que on est en plein, au cœur du sujet, aujourd'hui, en ce moment, on est encore dans les mêmes endroits, entre le Tigre et l'Euphrate, on est encore en train de se battre pour le futur de l'humanité. C'est quelque chose qui devrait vraiment nous interpeller. Que cette vieille carte qu'on voit dans nos Bibles du Moyen-Orient, elle est plus que jamais d'actualité. Babylone, au contraire, c'était la partie sud de cette vallée, de cette région de la Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate. Et ce serait intéressant de voir les endroits qui sont dans les nouvelles aujourd'hui et voir que, par exemple, Bassora, on en parle dans la Bible, c'est Basra. Et tous ces endroits sont chargés d'histoire et l'histoire continue. Dieu n'a pas fini avec l'humanité. Ninive, c'était la capitale de l'Empire d'Assyrie. Babylone, bien sûr, la capitale de l'Empire babylonien, et il y a une distance de 500 km entre Babylone au sud et Ninive, qui était la capitale de l'Assyrie au nord. Ça, c'est pour vous resituer un peu les événements. L'Empire perse va succéder à l'Empire babylonien, comme il est expliqué dans Ésaïe, dans Daniel. Il va y avoir un dénommé Cyrus le Grand, qui est en fait Cyrus II, le fils d'un dénommé Cambyse. Lui, sa mère, il avait un père donc qui était perse, et sa mère faisait partie de la race des Mèdes. Il était médo-persien, ou perse, enfin vous voyez l'idée, il était à la fois Mède et Perse. Et l'historien Hérodote, le grand historien grec, a dit qu'en fait, il avait la ville de Babylone avait été prise par les Perses sans bataille. Ils avaient détourné le cours de l'Euphrate pour pouvoir entrer dans la ville par des grilles qui passaient dans le lit de la rivière. Et cet empereur Cyrus le Grand rentre à Babylone, il fait une entrée triomphale, et là il y a le jeune prophète Daniel qui va lui montrer un parchemin avec une prophétie du prophète Ésaïe qui était mort 150 ans plus tôt et qui lui montre un texte où il est question de lui, de Cyrus. Son nom est marqué dans un vieux texte qui était gardé par les Juifs. 150 ans avant, ça avait été écrit. Et là encore, c'est Dieu qui nous dit que l'histoire biblique, ce n'est pas une histoire humaine, c'est vraiment Dieu qui la dirige et il nous fait toujours ces clins d'œil pour nous dire « ce texte est vraiment ma parole ». Et on peut regarder, on peut se tourner à Ésaïe, dans le prophète Ésaïe. Alors dans la Bible à la colombe, la Bible bleue, c'est Ésaïe 44, c'est page 714. Ésaïe 44 et 45, on va regarder quelques passages. Verset 27. Et donc, il faut s'imaginer que ce qu'on lit là, c'est sur un vieux parchemin qu'un jeune hébreu, un jeune juif, montre à cet empereur Cyrus, ce grand combattant qui vient d'entrer en triomphateur dans la ville de Babylone. Et là, il est dit, je dis à l'eau profonde, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Dieu lui dit qu'il savait comment il allait entrer dans la ville, en asséchant le fleuve. Il continue en disant, je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Et puis il continue, il dit, ainsi parle l'Éternel à son Messie, donc à celui qui est oint, à Cyrus qu'il saisit par la main droite, pour terrasser les nations devant lui et pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux battants et que les portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses dissimulées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Je suis le Dieu Tout-Puissant qui te connaît, Cyrus, par ton nom, le Dieu d'Israël. Et il continue, on va peut-être passer au verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus pour la justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, parlant de Jérusalem, et laissera partir mes déportés, donc tous ces exilés qui se trouvaient à Babylone. Dieu avait prophétisé par la voix du prophète Ésaïe que Cyrus allait laisser repartir, sans indemnité ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens, hommes de haute taille, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et t'adresseront leurs prières. C'est chez toi seulement qu'est Dieu, il n'y en a point d'autre. Les dieux sont nés en les petits dieux. Et donc, ce passage incroyable, il faut essayer d'imaginer la réaction de ce Cyrus dont il est question dans la Bible. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à voir ce soir donc les trois chapitres, les trois livres plutôt d'Esdras, Néhémie et Esther, qui sont ce qu'on appelle les derniers livres historiques après les deux livres de Samuel, les deux livres des rois, les deux livres des chroniques. Et on avait terminé dans les deux chroniques 36, 22 et 23, c'est page 475 dans la Bible à la colombe. Il était dit la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple, que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Ça, c'est ce qu'on appelle l'édit de Cyrus, et ça correspond à la fin des 70 ans de captivité, à peu près à l'an 538, 537, 538. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la fin du livre des Chroniques, mais ce sont aussi les deux premiers versets du livre d'Esdras. Et on sait que l'auteur du livre d'Esdras, c'est justement ce scribe Esdras. Oui, rapprochez-vous si vous avez des problèmes d'audition. Hein. Ça va, derrière ? Et on pense aussi que Esdras était aussi l'auteur des Chroniques. Et donc il reprend le même texte, le première année de Cyrus, roi de Perse. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire cette déclaration. C'est ce qu'on appelle l'édit de Cyrus, qui en fait commande au peuple hébreu de repartir, construire le temple, la maison d'Éternel. L'accent est mis sur le temple de Dieu. Et Esdras, ça va recouvrir une période de près d'un siècle, de 538 à 440. Et il va s'agir de reconstruire le temple. Ce scribe Esdras, on en a parlé quand on a vu l'ensemble de la Bible, on a dit que c'était aussi l'auteur du canon de l'Ancien Testament. On a dit que le canon, c'était la liste des livres qui avaient été déclarés comme inspirés, qui avaient été reconnus comme inspirés. Et on pense que c'est lui qui a décidé du canon de l'Ancien Testament. Le prophète Jérémie avait donc annoncé que la captivité ne durerait que 70 ans. Et on voit que Dieu réveille l'esprit de Cyrus, du roi. Il est dit plus loin au verset 5 qu'il réveille l'esprit de ceux qui montent au pays pour bâtir la maison d'Éternel. Et quelque part, Dieu aussi peut réveiller l'esprit de tous ceux qu'il veut utiliser. Je crois qu'il veut, bâtir son église à Nice, il veut bâtir son église en France. Et peut-être que si vous êtes ici, c'est parce qu'il a frappé à la porte de votre cœur, il vous a réveillé. C'est bon de se faire réveiller par le Seigneur. Trop souvent, même les chrétiens, on peut s'endormir dans la routine, dans le train-train, se laisser prendre par les distractions du monde. Et Dieu des fois doit nous réveiller. Il peut nous réveiller des fois avec des choses difficiles. Il peut nous réveiller par des épreuves dans notre vie, dans la vie d'un pays. Je sais que aux États-Unis, les églises sont pleines en ce moment. Les gens qui peut-être pensaient que les Américains étaient tout puissants pour conquérir se disent qu'en fait, sans Dieu, on est faible. Et souvent dans ces périodes de crise nationale, les gens se retrouvent, même en France, on voit une plus grande réceptivité à parler de l'évangile. On le voit en parlant aux personnes à la fac, dans la rue. Même s'il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis de la Bible, du fondamentalisme religieux qui serait selon les médias français, l'inspiration de cette guerre, les gens sont en recherche. Il y a une sécurité qui n'est plus là. Et Dieu peut se servir de tout pour nous réveiller. La première partie du livre d'Esdras, ce sont les six premiers chapitres. Il y a une description, donc, au départ du retour de d'un reste, c'est pas toute la population qui repart. Dieu a l'habitude de travailler avec ce qu'il appelle un reste d'Israël, mais aussi on a tendance en tant qu'être humain à vouloir des grands nombres. Et c'est vrai que les grands nombres, quelque part, c'est important aussi, parce que Dieu veut que tous viennent à la repentance, qu'aucun ne périsse. Mais s'il y a quelques personnes vraiment motivées par le Seigneur, elles peuvent faire plus de travail que des milliers de gens, de chrétiens apathiques, qui sont pas, qui n'ont pas beaucoup de zèle. Une personne avec le Seigneur peut faire des choses fantastiques, si elle est vraiment guidée par Dieu. Et je vous encourage, si vous sentez que le Seigneur vous demande de parler de lui dans votre entourage, d'inviter les gens à lire la Bible, c'est peut-être qu'il a des projets merveilleux avec une seule personne, avec un petit groupe. Et donc il y a une généalogie, plutôt une liste de noms au début du chapitre 2. À la fin du chapitre 1, il y avait la liste des biens qui avaient été ramenés, de grandes richesses, et on voit que le roi Cyrus rend les objets de la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles qui étaient utilisés dans le sacerdoce, dans le service, dans le temple, dans le tabernacle, qui avaient été donc pris par le roi Nabuchodonosor de Babylone. Le roi Cyrus, qui en a pris le contrôle en prenant le pouvoir sur Babylone, les redonne aux Juifs pour les ramener à Jérusalem. Et là aussi, on voit que peut-être les Juifs se disaient « Mais comment c'est possible que Dieu nous abandonne de cette façon ?» Les ustensiles qui servaient au service sacré dans le temple, maintenant ils sont utilisés comme des ustensiles pour faire des fêtes à la cour du roi de Babylone. Ça, Daniel nous en parle dans l'épisode où il y a la main qui écrit sur le mur du palais de Belshazzar que ses jours sont comptés. C'est justement lorsque Babylone prend le pouvoir, pardon, lorsque Cyrus, le Perse, les rois de Perse prennent le pouvoir. Dieu a le bénéfice de la durée. Souvent ça nous manque, on ne voit pas ce qui se passe, on vit le moment présent et c'est bien naturel, et on crie à Dieu « mais comment c'est possible ?» En fait, Dieu a un plan, Dieu avait prévu que ça allait être le roi Cyrus dont il parlait à Isaïe, qui allait être un instrument pour remettre de l'ordre dans les choses du temple. Et tous ces objets d'or sont redonnés aux Juifs. Ils repartent avec Zorobabel, qui était le gouverneur, verset 2 du chapitre 2, Josué, qui n'était pas le même Josué que le livre de Josué qui porte ce nom, mais un grand prêtre, Néhémie, Seraïa, il y a toute une liste de noms, un Mardoché, dont il sera question plus loin. Et on voit la précision des nombres. En fait, on voit vraiment qu'il y a des... C'était pas encore des inventions ou des fables, comme on lit des fois dans d'autres religions où il y a des récits un peu fantastiques. Là, c'était des contes d'apothicaires. Les fils d'Élam, il y en avait 1254, verset 7. Les fils de Zatou, il y en avait 945. 760, à la personne près. Encore une fois, Dieu s'intéresse à chaque individu. Et il fait la liste de certains de ces prêtres, des lévites, des chanteurs, les chantres, verset 41, il y avait 128 musiciens, il y avait une belle chorale encore, les fils d'Azaph. Il y avait les fils des portiers, ceux qui s'occupaient de l'accueil, la réception. Ils étaient 139. Les serviteurs de Salomon. Un passage très important, souvent les généalogies, on dit « Oh zut, une généalogie, je vais sauter parce que c'est trop pénible ». Et c'est vrai que c'est pas facile à lire. On a vu en étudiant la Genèse 5, souvent il y avait des grandes richesses, des grands trésors à trouver dans ces généalogies. Mais on voit l'importance pour savoir si quelqu'un peut participer au verset 62. Il y avait parmi les fils des sacrificateurs, au verset 61, les fils de Abaya, les fils d'Akots, les fils de Barzillai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, le Galadite, et fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ne les trouvèrent pas. Ils furent déchus du sacerdoce. si on ne pouvait pas prouver sa généalogie, on ne pouvait pas accéder à certains ministères. Et on voit l'importance de ces registres, de ces généalogies. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim, qui était une façon de s'assurer de la volonté de Dieu. Mais c'est juste une petite parenthèse qui montre encore une fois que ce qui nous paraît être quelque chose de pénible, c'est quelque chose de très important et qui montre que le sérieux du service de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, s'improviser. Là, c'était la généalogie, il fallait descendre de Aaron par ses descendants pour pouvoir prétendre au service dans le temple. L'autel est rétabli. Donc, Esdras va raconter l'arrivée des premiers rescapés de l'exil. Ils rétablissent l'autel. Pour nous, qu'est-ce que c'est que l'autel? C'est ce temps à part dans la journée où on peut avoir un moment avec Dieu. C'est le lieu de rencontre, c'est le moment de rencontre, c'est la relation personnelle. Et si vous êtes comme moi, vous avez peut-être remarqué que quand vous n'avez pas ce temps de rencontre, ce moment d'intimité avec Dieu, vous vous sentez loin de lui, votre vieille nature se dévoile davantage, elle est prête à vous dominer. Mais c'est leur priorité, c'est de rétablir l'autel pour avoir cette relation avec Dieu. Il est dit qu'ils célèbrent la fête des huttes, au verset 4 du chapitre 3. Ils offrent des holocaustes. Ils donnent des moyens aux tailleurs de pierre, aux charpentiers, des vivres, des boissons, de l'huile pour construire la maison du Seigneur. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est quelque part, c'est pas un temple, c'est simplement un lieu où nous nous réunissons, mais nous avons à cœur de faire quelque chose qui soit beau dans la mesure de nos moyens. Et je remercie tous ceux qui sont un peu comme ces rescapés qui viennent participer, qui entretiennent, qui servent dans le temple, entre guillemets, notre lieu de rencontre, sachant que le temple de Dieu, c'est maintenant notre corps. Notre corps est le temple de Christ, le temple de Dieu. Rétablissement de l'autel, il y a bien sûr des problèmes. Au verset chapitre 4, il y a des ennemis, des gens qui s'opposent toujours à l'œuvre de Dieu. Et les adversaires de Juda, de Benjamin, ils s'approchent du gouverneur Zorobabel et ils leur offrent leur service, mais Zorobabel et le grand prêtre Josué leur disent: c'est pas à vous de bâtir la maison de l'Éternel. Nous allons bâtir comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, le roi de Perse. Et ils essayent de les intimider. Ils gagnent, ils utilisent de l'argent, verset 5, pour faire échouer l'entreprise. Et ça dure pendant longtemps, jusqu'au passage de Cyrus à Darius. Finalement, la reconstruction va se terminer en 516, donc près d'une vingtaine d'années pour reconstruire le temple. Il faut faire appel au roi de Perse, Darius, en lui montrant le décret de Cyrus. Et là encore, l'importance des lois qui sont, une fois qu'elles sont passées, elles ont une puissance dans l'Empire perse, on le verra dans l'histoire d'Esther. C'est des choses qui sont carrément inamovibles ou qu'on ne peut pas remettre en question. Le temple est reconstruit à partir... il y a une fête, la dédicace du temple. Et là, ça pourrait être un modèle pour l'inauguration de nos locaux. je plaisante, mais verset 17 du chapitre 6, ils offrirent pour l'inauguration de cette maison de Dieu 100 taureaux, ça ferait beaucoup de taureaux, 200 béliers, 400 agneaux. Ils établissent les ordres des sacrificateurs selon les divisions du service et ils mangent la Pâque et c'est une grande joie que de voir que Dieu les a aidés à reconstruire le temple. Encore une fois, la période de 70 ans où ils ont été en exil, ça a correspondu à la désobéissance du peuple juif au cours de son histoire. Et il y a eu pratiquement ça a duré 490 ans et pour chaque période de 7 ans, il y avait un an qui était prévu en exil. Cette fois 490 ans. Encore une fois, Dieu punit, mais toujours dans le but de restaurer. C'est du châtiment, c'est pas de la punition violente et méchante. La deuxième partie du livre d'Esdras, les chapitres 7 à 10, c'est la réforme religieuse qui est mise en œuvre par Esdras. Le scribe Esdras regagne à son tour Jérusalem en l'an 460. Il enseigne les écrits sacrés aux nouvelles générations qui ne le connaissaient pas, qui ne connaissaient même plus l'hébreu, comme on le verra dans Néhémie. La leçon, c'est que Dieu a suscité un grand réveil qui a porté des fruits tangibles, la reconstruction du temple. Et puis, plus loin, on va voir la reconstruction des murailles de Jérusalem avec le livre de Néhémie. Et ça, pour nous, ça peut dire que Dieu peut nous visiter, nous, par son Esprit Saint, il peut aussi susciter le réveil et nous aider à faire une œuvre pour lui. Néhémie, le contexte, c'est qu'en fait, Esdras et Néhémie, à l'origine, ne formaient probablement qu'un seul livre. Esdras, c'était la reconstruction du temple. Encore une fois, la première chose la plus importante, c'est... Et je veux dire que j'apprécie ce que Stéphanie nous a encouragé à faire le dimanche matin, c'est de mettre en premier un temps de prière qu'on a tendance à négliger parce qu'il y a la sono à brancher, il y a le coup de balai à donner. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est la relation avec Dieu, de se placer tout de suite. Et quoi qu'on fasse, essayons d'avoir ce réflexe de dire « prions d'abord ». Comme on va le voir avec Néhémie. Esdras, ça résume des événements donc qui ont duré près de 538 à 455, 460 avant Jésus-Christ. Néhémie, ça va parler des 13 années de son mandat de gouverneur du territoire d'Israël. Qui était Néhémie ? Néhémie, page 486 de la Bible. C'était un haut fonctionnaire à la cour du roi Artaxerxès, ou aussi, on le voit au chapitre 2 de Néhémie. Et il avait entendu que la muraille de Jérusalem était brûlée, les portes étaient brûlées. La muraille était remplie de brèches. Et Néhémie avait vraiment le cœur lourd de savoir que la ville de son peuple, Jérusalem, était dans un tel état. Il les servait comme échanson du roi Artaxerxès, c'est-à-dire qu'il devait goûter le vin qui était servi au roi. Sachant qu'à l'époque, on utilisait souvent les poisons, et que le roi le laissait boire et le laissait digérer un petit peu pour voir s'il n'y avait pas de poison dans son vin, dans ses mets. Et encore une fois, c'était quelqu'un d'intègre qui, dans sa tâche, s'assurait de donner de son mieux. Un peu comme Joseph, qui, même en prison, s'attachait à faire de son mieux, de travailler comme si c'était pour le Seigneur et non pas pour ses geôliers, ce qui lui a permis d'être reconnu. Encore une fois, la leçon, c'est quoi que vous fassiez, faites-le de votre mieux, comme si c'était pour le Seigneur. Le roi l'avait remarqué comme un serviteur fidèle et sérieux. Et il avait remarqué cette tristesse sur son visage. Et il avait demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et Néhémie avait pu s'ouvrir auprès de cet empereur pour lui dire qu'en fait, il avait à cœur de retourner construire la muraille de Jérusalem. Il avait même demandé au roi de lui écrire des lettres de créance, des laissez-passer. Et ce qui est fait, le roi qui s'opposait pourtant à la reconstruction de Jérusalem, qui était influençable par ses conseillers, devant la demande de Néhémie, accède à sa demande et lui donne l'autorisation et même des moyens pour repartir construire la muraille de Jérusalem. Muraille de Jérusalem, là, c'est aussi de savoir que nous avons besoin d'avoir une protection. Et la protection, dans le cadre du Nouveau Testament, c'est pas une muraille, mais c'est une protection personnelle, c'est l'armure du chrétien, dont il est question dans Éphésiens 6, sachant que nous avons des armes spirituelles qui sont le... Regardez sans rentrer dans le détail de ce que chaque arme représente. Mais dans Éphésiens 6, à partir du verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Notre ennemi, ce n'est pas la chair et le sang, comme il est dit au verset 12, mais les principautés, les pouvoirs d'ici-bas, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Que la parole de Dieu, la vérité dans nos propos avec les autres soit comme une ceinture qui nous protège. La cuirasse de la justice, être revêtu de la justice de Jésus. À nos pieds les bonnes dispositions de l'évangile de paix, être prêt à aller donner cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Prendre le bouclier de la foi qui pourra éteindre les traits enflammés du malin. Les flèches, l'ennemi, le malin, essaye de nous faire douter des promesses de Dieu. S'il peut nous faire douter, alors là c'est comme il nous a mis en feu, on n'a plus aucune résistance, mais le bouclier de la foi peut les faire ricocher. Le casque du salut, savoir que on a cette protection, que quoi qu'il nous arrive, si nous avons donné notre cœur à Jésus, nous sommes protégés. Et puis, bien sûr, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et puis, c'est une fois qu'on a revêtu cette armure, il faut faire face à l'ennemi et en priant en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières, de supplications. Et donc, ça, c'est juste un petit aperçu de ce que doivent être nos murailles personnelles. Les murailles sont réparées. Là aussi, il y a des obstacles, il y a des ennemis. Chaque fois qu'on veut avancer pour le Seigneur, notre ennemi, le diable, va susciter de la résistance. Encore une fois, il faut s'apercevoir que ce n'est pas contre des hommes qu'on a à se battre, mais contre des hommes inspirés par ces principautés, ces dominateur dans les lieux célestes, toutes ces choses dont on vient de parler rapidement dans Éphésiens 6, 10. Finalement, les travaux se poursuivent. D'un côté, ils ont la truelle et de l'autre côté, ils ont l'épée. Et là, c'est aussi pour nous de dire que quoi que nous fassions, nous devons avoir... nous attacher à notre travail, mais toujours avec la parole de Dieu pour nous guider, pour nous protéger. Les obstacles sont finalement surmontés et les murailles sont terminées. Et là, il y a un moment très solennel qui est la lecture solennelle de la loi le sacrificateur Esdras, dont on a parlé dans le livre précédent, c'est au chapitre 8 de Néhémie. Il lut, verset 3, dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes et des faces et de ceux qui comprenaient, tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion, d'où l'origine biblique de l'estrade. Hein, ça. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Et il est dit que plusieurs prêtres, des Lévites, au chapitre 7, faisaient comprendre la loi au peuple et le peuple restait debout. Donc une journée de lecture, de retour à la parole de Dieu, qui avait été si longtemps négligée. Et là encore, il célèbre la fête des huttes. La fête des huttes, c'était un rappel de la façon dont les Israélites avaient vécu dans le désert en se construisant des petites cabanes en bois et en branchages. C'est aussi un symbole de la présence de Dieu avec nous. Dieu dit qu'il va tabernacler avec nous, il va demeurer avec nous et nous demeurons avec lui pour l'éternité. C'est un symbole de l'intimité du croyant avec Dieu. Il y a, chapitre 9, un jeune qui est entrepris. Un jeune, encore une fois, c'était une façon de se consacrer à Dieu et ça s'accompagnait de la confession des péchés. Une véritable action de l'Esprit de Dieu s'accompagne toujours d'une humiliation, d'un repentir du croyant ou de l'assemblée. Et c'est un signe du vrai réveil, ce n'est pas les choses extraordinaires qui peuvent être accompagnées à un réveil, mais c'est ce sentiment d'humiliation devant Dieu, de repentir, qui est la signature réelle d'un réveil. Et un réveil, ça peut commencer avec une seule personne. Voilà, donc il y a une reconstruction de la muraille, une reconstruction physique. Et puis les chapitres 8 à 13, la communauté prend des engagements. Il y a des résolutions pour l'entretien du culte. Les gens s'engagent à apporter de leurs ressources, des dîmes, des offrandes. Et c'est une restauration spirituelle du peuple. La muraille est inaugurée au chapitre 12. Et donc, on a la fin de la période historique et on arrive au livre de Esther. On a quelques minutes pour parler d'Esther, qui historiquement se situe entre les deux. Il est question d'un dénommé Assuérus. Et là aussi, ça peut être assez difficile à suivre. Et là, je vous invite, quand vous lisez ces passages, c'est bien d'avoir soit des commentaires bibliques, soit un dictionnaire biblique qui remet un peu en ordre les noms de ces souverains. Parce qu'on entend parler aussi de Xerxès ou d'Assuérus. Et suivant qu'on utilise la forme grecque du nom, comme Xerxès, ou la forme perse, Assuérus, ou encore des noms plus compliqués, on a du mal à faire la liaison entre ces différents passages. On voit comment c'est difficile de comprendre ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, en Irak, suivant les reportages qui viennent de l'un ou de l'autre. Et là, c'est un peu toute proportion gardée, suivant que c'est un passage qui est cité dans les chroniques, dans le livre de Daniel, dans le livre d'Esther. Les mêmes personnages peuvent avoir des noms qui sont rendus de façon différente. Mais l'histoire, vous la connaissez sans doute. Le thème de cette histoire, c'est que Dieu intervient de façon providentielle. Encore une fois, les événements peuvent sembler nous échapper, mais Dieu a un plan, et son plan, rien ne peut l'arrêter. ce roi Assuérus, qui était un roi très puissant, qui régnait, verset 1 du chapitre 1 d'Esther, verset 1, c'était au temps d'Assuérus. Il régnait de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces. Et la troisième année de son règne, il donne un grand festin à l'armée perse et aux Mèdes. Il monte toute sa richesse. C'est un festin qui dure, tenez-vous bien, 80 jours, 180 jours. Ou plutôt, il y a eu des fêtes pendant 180 jours, et là, pendant 7 jours, ils font un festin en plein air. Et c'est la fête, le vin coule à flot. Verset 8, on buvait selon un protocole sans contrainte. Ça veut dire qu'on pouvait se saouler comme on le voulait. De son côté, la reine du roi Assuérus, qui s'appelait Vashti, donnait un festin pour les femmes. Et dans l'euphorie du vin, il est dit, verset 10, c'est une façon de dire qu'il était, saoul, le roi demande à la reine Vashti de venir montrer sa beauté au peuple et à tous ceux qui étaient ses invités. Et la reine Vashti se refuse de se rendre à l'ordre du roi, transmis par l'intermédiaire des eunuques. Et là, c'est grave. Le roi est humilié devant ses invités, sa femme refuse de lui obéir. Ses conseillers lui disent que c'est très grave parce que s'il ne marque pas le coup, ça va être la révolte, ça va être le Women's Lib, le MLF, le mouvement de libération des femmes avant l'heure. L'un d'eux leur dit: la faute de la reine n'atteint pas seulement le roi, mais tous les princes et tous les peuples. Si ça se sait, les femmes vont montrer du dédain pour leur mari. Et il lui suggère de la destituer. Et c'est ce qui se passe. La reine est mise de côté. Et maintenant, il cherche à trouver quelqu'un pour la remplacer. Il y a un concours de beauté, un peu comme Miss France ou Miss Monde, avant la lettre, Miss Perse à l'époque. Et en fait, parmi les candidates, c'est Miss Israël, une dénommée Esther, qui va gagner le concours de beauté, sans qu'on sache en fait qu'elle était d'origine juive. Et donc, cette jeune fille avait été gardée par son oncle, qui s'appelait Mardoché. Mardoché, c'est intéressant, c'était verset 5 du chapitre 2, il est dit qu'il était fils de qui, il est descendé de la tribu de Benjamin, comme le roi Saül. David n'avait pas exterminé les héritiers, les descendants du roi Saül, et en fait, ce Mardoché, c'était un descendant, un produit de la grâce de David, quelque part. David avait épargné cette descendance, et de cette descendance était issu Mardoché. Il était donc le tuteur de cette jeune femme qui s'appelait Esther, ou en hébreu elle s'appelait Hadassa, verset 7. Il l'avait adoptée à la mort de son père et de sa mère. La jeune femme gagne le concours de beauté auprès du gardien des femmes. À l'époque, les empereurs, les souverains de ces pays avaient pas seulement une femme, ils avaient des harems, donc tout un nombre de femmes et de concubines. Et cette jeune femme d'une grande beauté plaît au roi Assuérus, oui. Et il met sur elle, sur sa tête, la couronne royale. Il la fait régner à la place de Vashti, de l'impératrice qui lui avait désobéi. il y a une conspiration qui est découverte par ce Mardoché, ce juif, à la fin du chapitre 2. À cette époque, alors que Mardoché était en place à la conciergerie, deux eunuques du roi entreprirent de porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché le fait connaître à la reine Esther, qui le fait dire au roi, et on pend les deux eunuques. On oublie l'affaire, mais c'est enregistré dans les chroniques, en présence du roi. Donc on notait toutes les choses qui se passaient dans le royaume, et notamment qu'un certain Mardoché avait sauvé la vie du roi, de l'empereur Assuérus. Encore une fois, Satan ne voulait pas que Jésus n'arrive sur la terre. Et il avait une cible, c'était le peuple juif. Et dans l'histoire passée, avant que Jésus n'arrive, on voit comment il y a eu des attaques contre le peuple juif. Et là, on va voir qu'il y avait un dénommé Aman. Lui descendait d'un roi qui s'appelait Agag. Agag, c'est dans 1 Samuel 15. Et en fait, il était le fruit de la désobéissance de Saül. Si Mardoché était le fruit de la grâce de David, vous vous souvenez que le roi Saül avait reçu l'ordre de passer par le fil de l'épée les descendants d'Amalek, les Amalécites, dont Agag descendait. Et en fait, parce que Saül avait refusé, il se trouve qu'il y avait cet homme, Aman, qui était un favori de roi, et il avait demandé, il voulait être honoré par le peuple, on devait s'incliner en l'honneur de Aman. Le roi en avait donné spécialement l'ordre, il est dit au chapitre 3, verset 2. Mais Mardoché, qui était juif, lui ne voulait refuser de s'incliner. Pour lui, ça aurait été adorer un faux dieu. Et ça enrageait, ça mettait ce favori du roi, cette sorte de premier ministre, ça le mettait en colère. Il était rempli de fureur, verset 5. Et il sait que il décide d'exterminer tous les juifs, tout le peuple de Mardoché. Et il dit au roi qu'il y a un peuple dangereux et qu'il faut signer un texte de loi pour exterminer tous ces juifs. Et lorsque Esther apprend ce qui se trame, elle en parle à son oncle Mardoché. Et là, aussitôt, le peuple se met dans le deuil. Ils déchirent le vêtement, ils mettent des sacs de cendres et ils se tournent vers le Seigneur, ils jeûnent. Mardoché, lui, espère que par l'entremise d'Esther, peut-être qu'une solution, une aide est possible. Et il a ces paroles fameuses avec Esther au verset 13 du chapitre 4. Esther était déjà plus tellement invitée chez le roi qu'il ne savait pas qu'elle était juive. Mais au chapitre 13, Mardoché lui fait dire « Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Et là encore, c'est Mardoché qui fait remarquer que les plans de Dieu ne vont pas être mis en échec. Si ce n'est pas par elle que vient le salut du peuple juif, il va trouver autre chose. Ça, c'est la foi. Savoir que ce que Dieu a promis, il va le tenir, et de faire remarquer qu'en fait, si tu as gagné ce concours de beauté, si tu t'étais retrouvée comme épouse du roi, est-ce que c'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenue à la royauté? Et dans notre vie, il y a peut-être des circonstances qui font qu'on se retrouve à des postes clés ou des moments clés où on peut aider le royaume de Dieu. Thierry, par la grâce de Dieu, s'est trouvé un moment où il a pu nous aider dans l'aménagement de ces locaux. On a été émerveillés de trouver quelqu'un qui était non seulement très compétent, mais très, très sympathique et très ouvert à notre projet. Peut-être que, et sans doute pour bien d'autres projets, mais il peut nous placer dans une position où nous pouvons faire avancer le royaume de Dieu. Ça peut être auprès de certaines personnes. On peut-être témoigner auprès d'une personne qui va devenir un grand instrument de Dieu. Peut-être que nous, on sera pas grand-chose dans le royaume. Mais Dieu agit comme ça, c'est la providence. Et c'est très encourageant de voir que ça se passe comme ça. Et donc, rapidement, puisqu'on arrive à la fin de notre heure, la reine Esther prend sur elle-même d'aller voir le roi, ce qui était une démarche très dangereuse, parce qu'il fallait normalement, on ne pouvait voir le roi que lorsqu'on était invité par lui, et elle va le voir, et là, par la grâce de Dieu, il s'interrompt, il lui donne la parole, et elle l'invite à venir à un festin avec Aman, ce premier ministre, et ils viennent à ce festin que Esther avait préparé. Là encore, tout se passait à table, comme beaucoup de décisions aujourd'hui dans le monde. Et la fraternité, le fait de partager un repas, c'est souvent une façon de mieux communiquer. Et lui dit, tu peux me demander jusqu'à la moitié du royaume, je te le donnerai, ta requête sera exaucée. Et là, elle fait durer le plaisir, elle dit, si j'obtiens ta faveur, demain on va faire un festin avec Aman. Donc un premier festin pour l'inviter à un deuxième festin. Et Aman voit Mardoché, dont il a horreur, mais il est content parce qu'il sait qu'il est invité avec le roi. Il pense qu'il est vraiment en grande faveur. Il se trouve que le roi a du mal à dormir. Même les empereurs de Perse ont des fois du mal à dormir. Et pour se distraire, il n'y avait pas les programmes tard la nuit à la télé de chasse et de pêche. Il lit les annales du royaume, et là il voit qu'il y avait un certain Mardoché qui avait sauvé sa vie, et il demande, mais qu'est-ce qu'on a fait pour lui ? Et il réalise qu'en fait on a oublié de le remercier. Et là il demande à Aman de lui dire comment est-ce que le roi pourrait faire honneur à quelqu'un qui l'a bien servi. Et là Aman est très heureux parce qu'il pense qu'il s'agit de lui. Il est tellement égocentrique, il pense que le roi veut le récompenser. Alors il y va, il dit qu'il faudrait le promener dans la ville sur un cheval. L'heure est passée. Pour se promener à cheval, et en fait il prévoit tout un plan, et le roi lui dit, va le dire à Mardoché. Et là on imagine la stupeur, la consternation de Aman, qui avait même préparé une potence pour faire pendre Mardoché. Le roi s'aperçoit donc, la reine lui dit que son conseiller Aman fait le complot de tuer tout son peuple à elle. Le roi s'aperçoit qu'il est l'objet d'une tromperie par ce Aman. Il y a même un épisode un peu comique où le Aman essaye d'implorer la grâce de Esther, et il se jette à ses pieds, et c'est à ce moment-là que le roi revient dans la salle et il lui dit, quoi, en plus tu fais des avances à la reine? Et il fait exécuter Aman sur le bûcher, sur la potence qu'il avait prévue pour son ennemi Mardoché. Et on voit comment Dieu renverse les plans de ceux qui veulent faire du mal à son peuple. Et un verset pour conclure, c'est le verset 25. Lorsqu'Esther se présenta devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le mal qu'il avait projeté contre les Juifs retombe sur sa tête et qu'on le pende à la potence ainsi que ses fils. C'est l'occasion de la fête du Pourim, qui veut dire le sort a complètement été transformé, la fête du sort. Dieu peut transformer les projets mauvais formés contre nous en de bons projets. On l'avait vu, vous vous souvenez, dans l'histoire de Joseph, dans Genèse 50-20, où ses frères, qu'il avait vendus en esclavage, ils voulaient lui faire du mal, mais Dieu avait utilisé cet esclavage pour l'emmener en Égypte. Joseph était devenu le premier ministre, il avait eu cette idée d'entreposer du blé qui avait permis à son peuple, plus tard, d'éviter à la famine. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Esther. En fait, Dieu l'a utilisée pour sauver le peuple juif. On verra dans l'histoire, avec Hitler par exemple, que ça continue, cet acharnement sur le peuple juif qui a amené le Messie et pour qui il y a un futur aussi qui est promis dans la Bible. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que ce qui se passe nécessairement en Israël est inspiré par Dieu, mais ça veut dire que le peuple juif a une destinée particulière. C'est le peuple que Dieu a choisi pour venir dans la race humaine pour amener son message d'amour et de salut. Voilà, désolé, on a dépassé un peu le temps. Est-ce qu'il y a quelques questions? Là, je réalise, c'est beaucoup de choses qu'on a vues. On a vu beaucoup de choses, pardon. Rappelez-vous que après le roi David, le roi Salomon, le royaume a été divisé en deux, qu'une partie, le nord, ils sont partis dans le nord de l'Irak, les autres sont partis dans le sud, Babylone, que Babylone, les empires ne durent pas longtemps. Seul l'empire de Dieu, le royaume de Dieu est éternel. Et ce qui peut nous sembler comme des royaumes ou des puissances mondiales indestructibles, il n'y a pas longtemps, je me souviens, quand j'ai grandi, il me semblait qu'il y avait, d'un côté, il y avait les États-Unis, mais de l'autre côté, il y avait l'URSS avec toute sa puissance qui, elle aussi, devait durer pour l'éternité ou pour très très longtemps. En fait, elle n'a duré que 70 ans, le nombre 70 qui revient. Et c'est le sujet de la prophétie de Daniel, de cette statue, ce rêve qu'il avait fait, vous souvenez? On en avait parlé l'an dernier. La tête d'or, les poitrines d'argent, les reins des reins, les jambes de bronze et de fer mélangés avec de la terre pour les pieds, qui symbolise justement le passage des grands royaumes, des grands empires, avec Babylone, les Perses, les Grecs, les Romains. Tout ça pour nous montrer que Dieu contrôle l'histoire, même si on a l'impression que ça explose n'importe comment. Sachez que ce qui se passe, Dieu le guide ou le contrôle ou peut le retourner. Des fois, c'est pas sa volonté qui accomplit, mais comme dans cette histoire d'Esther, on voit qu'il a toute puissance pour guider les choses, pour, par sa providence, accomplir ses desseins. Il est souverain et on ne peut rien contre lui. Il vaut mieux être de son côté. Je vous le dis tout de suite. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette opportunité de voir cette partie de l'histoire de la Bible. Même si c'est à très grande vitesse, Seigneur, ça nous montre des leçons. Ça nous montre que rien ne t'échappe, que tu es tout puissant pour arriver à tes fins, Seigneur. Aide-nous à avoir cette assurance dans nos vies, cette foi, qu'on puisse opposer au doute comme un bouclier, Seigneur, de savoir que malgré les maladies, malgré les revers de fortune, malgré les épreuves, Seigneur, tu es tout puissant et tu nous aimes et tu as un bon plan pour tous les hommes, Seigneur. Tu veux que le plus grand nombre vienne à ta connaissance. Aide-nous à être des instruments entre tes mains, Seigneur. Amen.